Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Damien Le Guay.
Bonjour, bienvenue à notre émission Au fil des pages, consacrée aujourd'hui aux éditions du Cerf et à son directeur Nicolas Jancède. Nicolas Jancède, bonjour.
Bonjour David Gaillardon, merci de me recevoir.
Comme je vous le disais, vous êtes le directeur des éditions du Cerf, qui est la première maison d'édition religieuse francophone, et une maison dont le nom évoque à la fois un psaume célèbre, et dont la création a, je crois, pour particularité d'être une réponse des dominicains à un vœu exprimé par le pape Pie XI, c'est ça ?
Oui, alors le nom des éditions du Cerf, c'est le psaume, comme un cerf altéré désire l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu.
Voilà.
Et le plus beau texte que je connaisse sur la symbolique du cerf, c'est le texte rédigé par Pierre Moineau, au début d'une anthologie du Cerf, et que nous avons repris dans une de nos revues, La vie spirituelle. C'est un très beau texte sur la symbolique du Cerf que je recommande à vos auditeurs. Quant aux circonstances de la naissance des éditions du Cerf, effectivement, c'est pas seulement un vœu exprimé par le pape Pie XI.
C'est plus que ça, en fait.
C'est un ordre, et même un ordre avec intervention énergique dans le climat très difficile provoqué par la condamnation de l'action française en 1926, qui était très douloureuse dans l'Église de France, parce que l'action française, notamment Charles Maurras, subordonnait complètement le religieux au politique, et c'était inacceptable du point de vue doctrinal, intellectuel et idéologique pour le magistère, pour l'Église, et le pape Pie XI a demandé aux dominicains, précisément au père Vincent Bernadeau, parce qu'il avait un grand talent pour la gestion de revues et qu'il s'était exprimé en faveur des prises de position du pape Pie XI. Donc il a demandé au père Vincent Bernadeau de créer, ça s'appelait avant de trouver le nom du cerf, l'œuvre des revues, une œuvre des revues, qui ferait face, qui offrirait une alternative à ce qu'était idéologiquement l'action française, mais qui protégerait aussi le grand renouveau des mouvements d'action catholique de tentations du côté des idées marxistes. Donc le pape Pie XI voulait à la fois une proposition alternative par rapport à l'idéologie de l'action française de l'époque et une prudence et une réserve et donc une alternative aussi par rapport à l'idéologie marxiste qui pourrait sous-tendre certaines approches de l'action catholique.
Ce qui permet déjà de balayer un arc assez large. Et je crois, alors vous le disiez vous-même, le Cerf est au début surtout un éditeur de revues. Et j'aimerais qu'on s'arrête un peu sur certaines de ces revues. Je pense à La vie spirituelle que vous venez de citer, mais aussi à La vie intellectuelle. J'aimerais qu'on parle peut-être un peu de cette, parce qu'on est stupéfait lorsqu'on voit les esprits de l'entre-deux-guerres qui ont contribué à ces revues. Je pense à Maurice Schumann, à Daniel Ropes, à Paul Claudel, à François Mauriac et je crois même à un certain colonel Charles de Gaulle.
Oui, alors, œuvre des revues. Le père Bernadeau a un génie des revues, un génie d'éditeur de presse. Et son successeur, le père Boisselot, l'aura aussi, puisque tout cela se développera dans un groupe qui est maintenant absorbé dans un autre groupe, mais donnera la naissance des publications de La vie catholique. Alors, nos pères fondateurs sont thomistes, néo-thomistes, et donc ils ont une certaine vision de la civilisation chrétienne. Alors il y a des nuances entre la vision de Maritain, la vision de Gilson, ça, nuances qui font l'objet de débats, et même de débats à l'intérieur de la maison, mais il y a une vision de la civilisation chrétienne. Donc on va organiser le travail de réflexion et de diffusion des idées en fonction de cette vision de la civilisation chrétienne. Et pour chaque aspect de la civilisation chrétienne, il va y avoir une revue. Alors on commence par l'essentiel, la vie spirituelle. On continue par la vie intellectuelle, car pour les dominicains, la connaissance participe de la vie religieuse, de la vie intellectuelle et de la vie spirituelle. Et on continue avec l'art sacré, car du point de vue de la civilisation chrétienne telle qu'elle est vue, tout ce qui concerne l'art et l'esthétique est essentiel.
Et l'accordaire y était très attaché.
L'accordaire y était très attaché, c'est la fondée, une sorte de tiers ordre des artistes. Il y a été très vigilant et c'était pas seulement une approche pastorale, c'était intérieur, c'était amical, c'était passionné. Et donc pour chaque aspect, alors il y aura une revue qui s'appellera Parole et Mission, il y aura une revue lorsque il faudra bien s'occuper de liturgie qui s'appellera La Maison Dieu. Il y aura, et ça va aussi loin que cela, après la guerre, un des amis temps présent, c'est-à-dire des dominicains, qui s'appelle Charles de Gaulle, va quand même gagner une guerre avec la radio. Et donc, que va faire le père Boisselot, successeur du père Bernadou? Il va créer une revue qui s'appelle Radio Cinéma, qui s'appellera ensuite, à partir de 1960, Télérama.
Télérama, voilà.
Alors évidemment, beaucoup d'intellectuels et de militants chrétiens gravitent autour de ce petit monde. Ils sont très connus de nos jours, mais ils n'étaient pas nécessairement autant à l'époque.
Bien sûr.
À l'époque, Maurice Schumann est un jeune journaliste qui n'est pas encore connu, qui a beaucoup de talent, qui travaille de proche avec toutes ses équipes des Dominicains. Et je dois vous dire que le CERF aura de très gros ennuis à cause de Maurice Schumann, car comme jeune journaliste, il a voulu, pour le magazine 7, qui synthétisait un petit peu tous ses travaux dans différentes revues sous forme d'un hebdomadaire. Et donc, dans le cadre de cet hebdomadaire, pendant le Front Populaire, il va faire une interview sous un pseudonyme de Léon Blum, ce qui vaudra un très gros ennui, ça contribuera, ça ainsi que les prises de position à propos de la guerre d'Espagne, à l'arrêt de 7. Ouais. Et donc Maurice Schumann a été responsable de cela en tant que jeune journaliste. Je vais vous raconter une anecdote. Lorsque le cardinal Albert de Courtrai a été élu à l'Académie française, a été coopté à l'Académie française, il ne voulait pas faire la réception privée, sa réception privée, dans des locaux de l'Église de France, parce qu'il était archevêque de Lyon. Il ne voulait pas les faire dans des locaux du diocèse de Paris. Il ne voulait surtout pas les faire dans des grands hôtels. Et du coup, on a fait cette réception au CERF. Or, Maurice Schumann était l'un de ses deux parrains, l'autre étant le père Carré, et le cardinal de Courtrai donne sa réception. Et puis, à la fin de la réception, le cardinal de Courtrai, voulant rentrer à Lyon le soir même, me demande s'il y a un local où il puisse se changer, puisqu'il était en tenue d'apparat. Et nous nous dirigeons à ce moment-là vers l'ascenseur qui jouxte l'entrée de la chapelle du boulevard La Tour-Beaubourg, des éditions du Cerf. Et à ce moment-là, le cardinal de Courtrai voit Maurice Schumann qui s'avance vers nous. Et alors, le cardinal de Courtrai, un peu étonné, lui dit « Mais vous venez avec nous ?» parce qu'il allait pour se changer. Et Maurice Schumann lui répond « Non, je vais à la chapelle. » Alors, le cardinal de Courtrai était un peu surpris, ce qu'a perçu Maurice Schumann, qui lui dit à ce moment-là « Vous savez, c'est dans cette chapelle que je suis devenu un homme. »
En fait, Maurice Schumann s'est converti, je pense, ensuite, grâce à la présence des Dominicains.
Plutôt avant, même, avant la période dont je vous parle.
D'accord.
Mais au début, c'est par la proximité des Dominicains, et notamment du Père Médieu.
Oui, voilà.
Le Père Médieu qui était l'aumônier, en quelque sorte, de l'ensemble des militants qui gravitaient autour des revues du CERF. Ouais.
Alors, une chose qu'il faut préciser aussi, c'est que la plupart des contributeurs des revues qu'on vient d'évoquer seront engagés dans la résistance au moment de la Seconde Guerre mondiale.
Vous le savez presque mieux que moi, puisque il y a quelques années, vous avez vous-même préparé et mené un colloque sur le Père Médieu et sur la résistance de La Tour-Maubourg, comme on disait,
oui,
c'est-à-dire ce lieu qui réunit le couvent Saint-Dominique et les éditions du Cerf qui sont dans le même immeuble où tout ça fusionne. Le cardinal Chegara, lors des obsèques du Père Carré, disait que la référence du Père Carré, c'était La Tour-Maubourg, ce mélange de maisons d'édition et de couvent. Et donc, l'ensemble de la maison a été engagé, effectivement, dans la résistance. Oui. Mais c'est vraiment l'ensemble de la maison, tous les Dominicains, pas toujours avec les mêmes analyses et les mêmes points de vue, mais tous ensemble. Il faut mentionner le rôle, quand j'ai demandé au Père Carré qui avait été le déclencheur, alors il y en a eu deux. Il y a eu François Perroux, qui a beaucoup aidé les Dominicains de La Tour-Maubourg, justement parce qu'il collaborait à la revue La Vie Intellectuelle, à prendre conscience de la gravité de ce qui se passait en Allemagne, premièrement, et deuxièmement, il y avait aussi des Dominicains allemands qui ont envoyé de la documentation aux Dominicains de La Tour-Maubourg, et très tôt, les Dominicains de La Tour-Maubourg et leurs militants ont été engagés dans la résistance. Étienne Borne dira même, à la mort du Père Médieu, que les groupes de réflexion animés par le Père Médieu ont été le lieu d'invention du concept de résistance avant que la résistance n'existe sur le terrain. Et vous avez mentionné la fréquentation par Charles de Gaulle de ces cercles. Et Mondouze, lors de votre colloque, a bien montré qu'on avait sous-estimé le rôle de la tour Maubourg, comme il le dira lui-même, où il venait chaque semaine, il l'a raconté, dans le fait de transférer les diffuseurs de journaux de la tour Maubourg vers Témoignages Chrétiens, puisqu'on ne pouvait pas publier en zone occupée.
Oui. Alors, après la guerre, le CERF a poursuivi son développement avec cette limite dont vous allez peut-être nous parler aujourd'hui qui est assez particulière, à savoir l'impossibilité pour les ouvrages religieux en France d'être diffusés dans le réseau classique de librairies depuis la loi de séparation de l'Église et de l'État.
En réalité, la difficulté vient de ceci, c'est que, je vais prendre un exemple pour avoir une comparaison. En Allemagne ou aux États-Unis, la théologie est une discipline universitaire. Donc, dans chaque university press, comme on dit, ou chez les éditeurs scolaires allemands, on a des ouvrages de théologie universitaire. Et donc, le problème de la circulation des livres de fond, ou universitaires ou culturels, ne se pose pas dans ces pays. En France, en revanche, comme la théologie est exclue du champ de l'université, que d'une certaine manière, même la catéchèse ne fait pas partie de l'enseignement scolaire, même s'il y a la place pour des heures de catéchisme. Les éditeurs scolaires, qui sont le reflet du système universitaire et du système scolaire, n'ont pas de place pour les ouvrages religieux et les ouvrages de théologie. De ce fait, notre maison de revue, à l'origine, va connaître deux étapes. La première étape, c'est qu'il ne suffit pas de publier des articles de revue, il faut approfondir pour que, en même temps qu'on diffuse des idées, cet approfondissement permette au renouvellement intérieur. Et donc vont se développer des collections d'études de fond à l'intérieur de chez nous. Et ceci va se développer, car comme il n'y a pas suffisamment de place dans l'édition pour le religieux, le militantisme du CERF va pouvoir développer tout un domaine universitaire et culturel, et notamment l'édition de textes anciens et de corpus.
Dont nous reparlerons tout à l'heure. Marquons, si vous le voulez bien, Nicolas Janssède, une courte pause, et nous poursuivrons ensuite l'histoire de cette maison d'édition si particulière qu'est le CERF.
Partager le savoir, c'est la découverte avec nos journalistes de la présence de la langue française dans le monde. Avec Christa Leuc, vous rencontrez les directeurs des Alliances françaises. Avec Marianne Durand-Lacaze, vous vivez l'expérience et l'engagement des professeurs de français à l'étranger. Avec Françoise Thibault, vous visitez les universités du monde. Partagez le savoir en direct ou en médiathèque sur Canal Académie.
Chers amis internautes, nous nous retrouvons avec Nicolas Janssède, le directeur des éditions du CERF. Nous poursuivons notre découverte de cette maison d'édition et nous parlions tout à l'heure de l'après-guerre et de l'évolution de cette maison d'édition qui, après avoir été un éditeur de revues, devient aussi un éditeur d'ouvrages, de livres. Et je dirais que c'est sous l'impulsion du père Chifflot, je crois, que le CERF est passé à, j'oserais dire, à la vitesse supérieure. Et vous allez nous parler peut-être aussi à ce moment-là du renouveau biblique des années 50 et de ce qui allait devenir votre best-seller, entre guillemets, la Bible de Jérusalem.
Oui, on peut dire que les éditions du CERF ont deux fondateurs. Le premier est un homme de presse. Il faut parler de son successeur qui a continué, le père Bernadot et Boisselot. Et un fondateur qui est venu en cours de route, qui a un génie éditorial extraordinaire, le père Chifflot. Et quand aujourd'hui je parle avec le maître général des Dominicains et que nous parlons des différentes maisons d'édition que nous avons en Europe et que nous essayons de coordonner, si je peux dire, dans une société des éditeurs dominicains, régulièrement on nous pose la question, mais est-ce que des Dominicains doivent faire de l'édition ? Alors je réponds au maître général des Dominicains, vous savez, cher père, il y a des questions qu'on ne se pose que lorsqu'on est en situation. Le père Chifflot, un génie éditorial, il est nommé directeur éditorial de la maison Côté Livre, et alors il se pose la question, quand on est dominicain et qu'on a une maison d'édition, qu'est-ce qu'on doit faire ? Réponse, une Bible. Et c'est ainsi qu'est née l'idée de faire avec l'école biblique et archéologique française de Jérusalem, la Bible de Jérusalem. On n'avait pas de traduction récente de la Bible, on avait surtout des traductions protestantes, on avait celle du chanoine Crampon au début du siècle, mais qui n'avait pas le degré de scientificité que l'école biblique pouvait mettre en œuvre, et donc le père Chifflot va créer la Bible de Jérusalem, d'abord en 48 fascicules qui paraissent en 5 ans, Ensuite, en un volume en 53. Alors, cette Bible, ensuite, a été renouvelée en 73. Oui, et en 98, la dernière édition, puisque le principe, c'est que nous y travaillons tout le temps. Dès qu'une nouvelle génération est sortie, nous commençons à travailler à la suivante. Et actuellement, je peux vous dire que nous travaillons à la suivante, qui s'appellera la Bible en cette tradition, et qui paraîtra dans une quinzaine d'années. Encore un gros travail. En même temps que nous travaillons d'ailleurs aussi à la traduction de la Bible grecque des Septante, qui est fait à la Sorbonne, sous l'égide de Marguerite Arlat, professeur émérite. Donc, nous devons au Père Chifflon la création de la maison d'édition. C'est cela d'ailleurs qui lui permet d'entrer en contact, j'allais dire grâce à la guerre, parce qu'il est obligé d'aller en zone libre pour continuer le travail, et donc il se retrouve à Lyon, où justement les pères jésuites, le futur cardinal de Lubac et le futur cardinal Danielou, cherchent un éditeur et ont un débat entre eux, parce que Danielou ne souhaite pas que Source Chrétienne, qui cherche à créer cette collection des pères de l'Église, qui vient de fêter son 500e voilà. volume, dont vous avez parlé
ici à Canal Académie,
oui, ne veut pas que ce soit les éditions de Serge, parce qu'il voudrait une maison universitaire pour donner le change à l'université, comme la collection Guillaume Budé aux belles lettres. Et il n'y a qu'un malheur, c'est qu'aucun éditeur ne veut des Sources chrétiennes. Aucun. Alors le père de Lubac, parce que nous avons la trace des correspondances, finit par convaincre Danielou que finalement, ce n'est peut-être pas une mauvaise chose que de prendre les Dominicains. Et j'ai tendance à penser qu'il n'est pas sûr que la collection Sources chrétiennes aurait vécu comme elle a vécu et aurait duré comme elle a duré s'il n'y avait pas eu le support des Dominicains. Je le dis avec plaisir en ce moment où nous célébrons le 500e volume des Sources chrétiennes. Donc, il va créer aussi des collections dans tous les domaines de l'intelligence de la foi, en liturgie, en études bibliques, la collection Lectio Divina, en liturgie c'était la collection Lectio Orandi, en théologie fondamentale, la collection Cogitatio Fidei. Chacune de ces collections porte d'ailleurs un titre latin, c'est l'esprit de l'époque, et ces collections sont encore vivantes aujourd'hui.
Alors, le cercle dans son histoire a été confronté à plusieurs bouleversements, qui sont des bouleversements de société et qui ont forcément eu des retombées ensuite sur la politique éditoriale, j'imagine, du cercle. Je pense à Vatican II, qui a quand même été un événement considérable pour les chrétiens du XXe siècle, à mai 68, et ensuite à la lente déchristianisation de la société, qui a été parfois, pour certains ordres religieux, une saignée.
Oh ben, je me reconnais bien notre histoire dans ces trois moments. Oui, ce furent trois moments. Alors, premièrement, d'abord, l'explosion que fut Vatican II. L'explosion tout simplement parce que beaucoup d'auteurs qui ont contribué à ce que serait Vatican II avaient publié des travaux de recherche aux éditions du Cerf. Et vous savez, les historiens actuellement s'intéressent pas seulement à l'œuvre des auteurs, mais aussi à l'émergence des idées grâce à des réseaux. Et il y a un très fort réseau de futurs conseillers de Vatican II qui publient au Cerf et qui se réunissent au Cerf. Donc le concile va être un moment, il y a un boom conciliaire. Et puis il y a une passion dans la presse quand même pour tout ce qui se passe au concile. Beaucoup de quotidiens ont régulièrement une double page sur le concile, ce qu'on n'imagine plus aujourd'hui.
Oui, tout à fait.
Donc il y a une passion, ce qui conduit d'ailleurs les éditions du Cerf à beaucoup se développer. Mais cette passion est immédiatement suivie, vous l'avez dit, par mai 68, j'allais dire par une jeunesse qui, dans le cadre des années d'abondance, jamais connue auparavant dans notre histoire, croit que tout est possible. On déchantera un petit peu à la fin du siècle, lorsque le chômage nous aura menacé, que la vie économique sera plus difficile. Mais en attendant le choc pétrolier, si je puis dire, on croit que tout est possible en 68. Et puis alors, comme tout est possible, on peut sortir de tous les carcans idéologiques, éthiques, même politiques, qui faisaient la société, ce qui a fait l'explosion de mai 68.
Oui, oui, la porte est grande ouverte.
Et dans l'Église, il y aura un effet de suite de mai 68, surtout au début des années 70, qui amènera le départ de beaucoup de clercs du ministère, ensuite qui amènera à mettre en cause beaucoup d'enseignements qui étaient traditionnels, qui amènera aussi, il faut le dire parce qu'on le vit maintenant, des mises en œuvre de Vatican II mal ajustées. Tout cela va créer une sorte d'effondrement de l'intérêt pour les enjeux religieux au début des années 70. Et cela entraînera pour le Cerf une question d'identité difficile qui durera jusqu'au début des années 80. Alors le choix, c'est le suivant. Est-ce que le Cerf va faire comme le seuil de l'époque? Parce que les deux maisons étaient assez parallèles.
Oui, oui.
À savoir devenir un éditeur général ou généraliste avec un secteur religieux. Mes prédécesseurs immédiats ont penché de ce côté-là. Ils ont commencé avec des collections d'éducation, de syndicalisme, enfin on est dans les années 70, et au début des années 80, nous avons réglé la question autrement. Ou bien on devenait un éditeur généraliste, mais dans ce cas-là, on ne prenait pas seulement des collections socioculturelles comme l'éducation, le syndicalisme, on faisait de la littérature avec des romans, de l'histoire avec des grandes biographies, etc. Vraiment de l'édition générale. Ou bien on devenait un éditeur spécialisé. Mais il fallait faire un choix. Et si on était un éditeur spécialisé, pour l'heure, on était trop gros par rapport à ce qu'on peut publier dans le domaine religieux. Et si on devenait un éditeur généraliste, premièrement, personne n'attendait après les Dominicains pour faire un travail qui était déjà bien fait en France, par des collègues éminents. Deuxièmement, les Dominicains recrutent des Dominicains, mais des gens qui ont vocation à aller travailler comme éditeurs généralistes, c'est pas dans l'ordre dominicain qu'ils vont épanouir leur vocation. Et enfin, c'est plus subtil, mais l'édition spécialisée travaille commercialement avec une force de frappe ciblée. C'est pas la peine de mettre des ouvrages de théologie savante ou des textes grecs dans les relégards, par exemple.
Nous en reparlerons peut-être tout à l'heure.
Or, l'édition généraliste requiert au contraire une force de frappe forte, voire violente. Et la dynamique dans une maison, c'est que les évolutions de carrière se font à partir de la force de frappe ciblée vers la force de frappe grande et violente. Donc, ça aurait créé une dynamique interne dans la maison qui aurait toujours happé les gens en partant du religieux vers ce qui était généraliste, ce qui fait qu'un beau jour, le généraliste l'emporte surtout dans la maison. Donc, nous avons fait notre choix, c'est de garder l'identité religieuse de la maison et de déployer sa spécialisation.
Alors, pour parler peut-être de la politique éditoriale du CERF aujourd'hui, on va marquer une courte pause et on reviendra ensuite sur cette actualité de votre maison.
Parce qu'ils ont façonné l'histoire de nos civilisations, ils furent acteurs ou témoins de cette histoire, leurs travaux et ouvrages nous font traverser les siècles, historiens, philosophes, économistes, juristes et sociologues s'expriment sur Canal Académie. Les membres de l'Académie des sciences morales et politiques racontent, retrouvez-les dans Un jour dans l'histoire, une émission de la rédaction de Canal Académie.
Alors, le CERF, on le sait peut-être moins d'ailleurs aujourd'hui, et bien sûr une maison d'édition religieuse chrétienne, catholique, mais vous publiez en fait tous les courants théologiques, parce que vous êtes le premier éditeur pour la confession juive en Europe, vous êtes je crois aussi le premier éditeur orthodoxe en France, et même le premier en France pour le protestantisme.
Oui, ce qui s'est passé, c'est que dès lors que nous avons opté pour être un éditeur entièrement consacré aux enjeux religieux, nous avons redéployé notre activité pour ne pas réduire le CERF. Alors, nous avons redéployé notre activité avec quelques axes. Alors, l'axe le plus éminent, c'est d'abord la publication des textes de la tradition. Ça commence avant la Bible, avec les textes du Proche-Orient ancien. Ça continue avec la Bible, et chaque génération a donné une Bible au CERF, la Bible de Jérusalem, génération suivante, la traduction œcuménique de la Bible, notre génération, la Bible d'Alexandrie, la traduction grecque faite par la Sorbonne, et nous préparons la suivante, je vous l'ai dit, mais ça continue aussi avec les textes des Pères de l'Église, les 500 volumes de la collection des sources chrétiennes, ça continue aussi avec le Moyen-Âge, puisque le CERF était faible et pauvre dans le domaine du Moyen-Âge, parce que nos collègues nés avant nous avaient déjà pris en charge ce travail, y compris avec des Dominicains, que ce soit chez Vrin ou chez Desclés de Beauvert. Mais avec le temps, nous avons, et avec des partenariats, rattrapé, si je peux dire, notre retard en rendant des services non concurrentiels de ce que faisaient nos collègues, de sorte que pour le Moyen-Âge, nous commençons à devenir vraiment très importants, surtout avec le travail de traduction. Mais par exemple, par nos partenariats, nous sommes maintenant diffuseurs et co-éditeurs de la Léonine, c'est-à-dire de cette grande édition critique des œuvres de saint Thomas d'Aquin, qui a été commencé par le pape Léon XIII et qui publie de grands fascicules. Ça a été commencé à la Grotta Ferrata, où on publiait aussi Bonaventure, par les franciscains. Maintenant, ils se sont installés auprès de la bibliothèque du Solchoir à Paris, l'équipe Léonine, dans le 13e arrondissement. Et donc, nous sommes partenaires et coéditeurs pour cela. Et ça va jusqu'aux éditions critiques d'œuvres les plus récentes. Je pense aux œuvres complètes de Thérèse de Lisieux, dont nous sommes l'éditeur. Vous savez, c'est le seul docteur que Jean-Paul II a fait. Il a canonisé 500 personnes. Il n'a fait qu'un seul docteur. Ici, à l'Académie, je veux dire un seul docteur. Hein,
oui.
Parce que les Québécois m'ont beaucoup embêté pour que je mette docteureux. Alors, il a fallu se défendre un peu. Le seul docteur créé par le pape Jean-Paul II. Et alors, nous publions des corpus aussi. Alors, nous avons publié récemment du point de vue de l'actualité. Je ne pense pas qu'il soit docteur de l'Église, ni même, c'est l'Église de dire s'il est un saint homme, mais le cardinal Baudrillard, qui a publié des carnets au quotidien de 1914 jusqu'en 1942.
Qui sont pour l'historien une source fabuleuse et passionnante.
Et donc, nous avons toute une activité, ça c'est notre premier axe. Ensuite, notre deuxième axe, effectivement, ce sont les éditions confessionnelles. Alors, nous avons considérablement développé les publications catholiques, puisque nous prenons en charge tous les documents du magistère et pas seulement les principaux comme le faisaient nos prédécesseurs, mais encore, nous prenons tous les courants de la théologie tels qu'ils sont reçus dans l'Église catholique. Et compte tenu des invitations à la collaboration œcuménique qui vient de Vatican II et que les papes récents ont rappelé avec insistance, nous avons donné une traduction éditoriale à cela. Comme ces confessions sont très minoritaires en France et ne peuvent pas avoir de maison d'édition, nous avons créé en quelque sorte une tribune pour les études du judaïsme et qui fait du CERF, dit-on. Je ne l'ai pas vérifié, mais je pense que c'est vrai. Le principal éditeur juif en Europe. Pourquoi est-ce vrai? Tout simplement parce que dans les autres pays d'Europe, il ne reste plus de communauté juive assez importante. Et aussi, nous collaborons beaucoup avec les théologiens protestants. Nous ne sommes que le principal éditeur protestant français, parce qu'en Suisse, il y a les éditions
Bien de la
qui sont plus importantes que nous, mais que nous diffusons, avec qui nous travaillons de très près, et avec les orthodoxes. Ce mois-ci, nous étions à un colloque à l'Institut Saint-Serge, qui est l'Institut de théologie orthodoxe de Paris, un colloque organisé par eux pour le 500e volume des sources chrétiennes et l'apport des penseurs russes au renouveau patristique au XXe siècle en France. Un très beau colloque. Donc nous avons des collaborations comme ça très fortes. Ça, c'est un deuxième, avec les textes anciens et les publications de corpus, c'est un deuxième axe. Nous avons un troisième axe qu'on pourrait appeler les éditions universitaires du CERF. C'est-à-dire que pour chaque domaine de l'université, nous avons une tribune où les recherches faites dans le cadre universitaire sur des sujets qui concernent potentiellement le religieux, nous pouvons accueillir les livres. Et donc, nous avons un tel créneau en histoire, avec la collection CERF Histoire, pour des livres d'histoire tels qu'on la pratique à l'université. C'est épistémologiquement pas toujours satisfaisant pour un croyant, mais ce sont des travaux universitaires dans le domaine de l'histoire et qui concernent des sujets religieux. Et à ce sujet-là, il faut signaler notre partenariat avec la Société d'histoire religieuse de la France qui a recréé sa collection aux éditions du CERF. Nous avons la même chose en sciences humaines et religions, notamment en sociologie. Nous avons la même chose en histoire de l'art, où nous avons essayé de développer un département. Même si l'histoire de l'art, enfin, où le livre d'art a été sinistré dans les années 90, nous avons maintenu notre activité. Et puis aussi en philosophie, avec des collections, quatre collections très importantes, l'une dans le sillage de Walter Benjamin, l'autre dans le sillage de Lévinas, la troisième qui s'appelle Philosophie et théologie, en partenariat avec la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Paris, que nous venons de célébrer récemment, et une dernière qui s'appelle Pensée antique et médiévale avec l'Université de Fribourg.
Alors ça, c'est la preuve d'une grande réactivité de votre maison. Mais face à cette effervescence, il y a quelque chose sur lequel j'aimerais bien avoir votre point de vue. C'est on est dans une société où les points de vente, les librairies diminuent. Je crois d'ailleurs que vous avez des chiffres à donner qui sont particulièrement parlants. Comment une maison d'édition comme la vôtre peut faire face à cette diminution des librairies?
Pour ce qui est de la librairie, je vais vous parler de la librairie religieuse telle qu'elle est.
On est d'accord.
La librairie générale vit des regroupements difficiles et elle est donc soumise à des pressions de rentabilité. Il y a tout un mouvement, on pourra s'en expliquer tout à l'heure à propos de du même problème en édition, tout un mouvement de regroupement. S'agissant de la librairie religieuse, nous avons un premier paradoxe. Elle est à la fois beaucoup plus développée qualitativement qu'elle ne l'était il y a 30 ou 40 ans, mais elle est peu nombreuse et sa vie est difficile. Et heureusement qu'il y a eu ce développement qualitatif. Qu'est-ce que j'appelle développement qualitatif? C'est que maintenant nous avons affaire à de vraies librairies, souvent de très bonnes librairies, alors qu'avant, la librairie de la cathédrale, on vendait des cierges, des choses comme ça et tout. Et la personne qui était très dévouée à vendre tout ça, on ne s'y connaissait pas beaucoup en livres. Tandis que maintenant, nous avons des vrais libraires, et même si à l'occasion, il y a du service dans d'autres domaines, c'est des libraires et des librairies.
Ils connaissent leur fond,
Donc, il y a un développement qualitatif extraordinaire. Et il faut saluer le courage des libraires de ce point de vue-là. Maintenant, sur la manière dont est baillé le territoire français, le tissu est très fragile. On peut prendre des comparaisons. Hein. Le seul groupe de la San Paolo en Italie, mais il y en a 7-8 groupes de cette importance en édition religieuse, a 90 librairies à son nom. Pour le CERF, nous aimerions bien avoir 90 librairies à notre nom. Et il y a d'autres groupes. Hein. En librairie, on peut penser à peu près... Non, je peux pas dire, parce que il faut distinguer entre le département bien fait et puis, en ex-Allemagne de l'Ouest, il y avait 600 départements de librairies religieuses, ou bien des librairies entièrement spécialisées, ou bien un département construit, grâce à tout le scolaire et l'universitaire. Hein. En ex-Allemagne de l'Est, il y en avait 80 du temps du régime communiste. Et en France, nous sommes à 150. Donc, entre les 600 de l'ex-Allemagne de l'Ouest, et les 80 de l'ex-Allemagne de l'Est, vous voyez que la situation française nous situe plus proche vers l'Allemagne de l'Est, du communisme. Alors, je vais vous dire des choses très simplement. Notre laïcité à la française est très très heureuse d'un point de vue politique, d'un point de vue économique, d'un point de vue de la distinction des pouvoirs, du respect des confessions religieuses. Mais notre laïcité à la française, par son effet culturel... à des effets seconds qu'on n'a jamais envisagé vraiment en face.
Oui. Alors, je voudrais qu'on s'attarde peut-être davantage maintenant au métier d'éditeur, puisque c'est votre métier. Quels sont vos critères, justement, en matière de politique éditoriale ? Je crois que, justement, nous en avions parlé, vous avez un attachement très fort à la notion d'œuvre.
Oui. Alors, vous savez, actuellement, toute l'organisation de la chaîne du livre est raisonnée en termes de best-seller. Et on passe vite du best-seller... aux produits qu'on fabrique dans le cadre d'un marketing et qu'on met en circulation. Oui. Et je pense que ceci n'a pas été bénéfique pour le monde de la librairie. Je pense au contraire que la question que je me pose devant un livre, est-ce que c'est une œuvre ? Est-ce que c'est une grande œuvre ? Est-ce que ça fait un livre vraiment ? Est-ce que c'est un bon livre ou un grand livre ? Alors, je demanderais peut-être qu'est-ce que c'est qu'un grand livre ? D'abord, un grand livre, contrairement à notre civilisation du photocopiage, c'est un livre qui a un début et une fin. La première phrase d'un livre, c'est essentiel. « Longtemps, je me suis couché de bonheur. » On voit tout de suite si on entre dans un livre.
Ouais, ouais.
Et il y a une fin. Alors, c'est un aspect. Et dans notre civilisation du photocopiage, on n'est peut-être pas assez sensible. Mais pour moi, c'est essentiel. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'un grand livre ? Je vais vous faire une réponse à la manière du cerf. Vous savez, on parle de roman à l'eau de rose. Et un roman à l'eau de rose, c'est une amourette, sans psychologie, c'est futile, sans drame humain. Un livre, un grand livre, c'est plutôt pas seulement une amourette, mais prenez Roméo et Juliette de Shakespeare. Alors, il y a l'amour et la mort, la haine et le meurtre, et les questions de pouvoir. Là, vous avez... chez Shakespeare. Là, vous avez déjà une grande œuvre. Et alors, un très grand livre, je dis parfois à mes collègues que si au CERF, je publiais un auteur comme Dostoïevski, je pourrais faire l'équivalent avec un seul auteur de plusieurs collections de théologie. Un grand livre, c'est non seulement là où il y a l'amour, la mort, mais aussi la question du sens de la vie, la question du salut. Pensez au frère Karamazov, pensez à l'idiot de Dostoïevski. Et donc, c'est pour ça que la Bible, lorsqu'on réfléchit pourquoi l'impact de la Bible, c'est parce que la Bible contient tous ces aspects, y compris la question du salut, sous forme d'une bibliothèque, et on pourrait dire que la Bible est l'absolument livre. Donc voilà mes critères.
Les sentiments intemporels et universels, plus le salut.
Oui, voilà.
Nicolas Jancet, je vous remercie d'être venu nous présenter votre maison d'édition. Avant de nous quitter, j'aimerais qu'on évoque la figure d'un grand dominicain qui a été d'ailleurs quelqu'un qui contribuait au renom des éditions du CERF et qui a été membre de l'Académie française. Il s'agit du père Carré, que vous avez bien connu au CERF.
Que j'ai très bien connu. J'étais très proche de lui pendant les 15 dernières années de sa vie, au quotidien, oui. et par des liens institutionnels, puisque je suis un de ses successeurs comme prieur et que j'étais son prieur de fin de vie, et d'autres choses encore, c'est une des très très belles figures du XXe siècle de prédicateur. Je pense qu'il y a deux grands prédicateurs au XXe siècle, le père Carré et Maurice Zindel. Et on a pu dire que la première fois qu'il y a le mot « crise » dans les documents du magistère à propos de l'Église, c'est à propos de la prédication. Et donc, le fait que nous ayons eu deux grands prédicateurs français, francophones, Maurice Zindel et Carré, qui étaient d'ailleurs très amis, et Zindel devait à Carré le fait qu'à des moments de disgrâce, c'est Carré qui lui a permis de vivre dans de bonnes conditions. Et je peux même préciser que lorsque Paul VI a pensé créer Zindel cardinal, il en a parlé au père Carré, qui lui a répondu, parce que Paul VI et Carré étaient très amis, très saint-père, ne lui faites pas cela, il n'arrivera jamais à s'en sortir de tout l'apparat et de tout ce qui concerne le cardinalat, mais demandez-lui plutôt de venir prêcher les exercices spirituels du Vatican, ce que Paul VI a fait, et Maurice Zindel a été comme ça, le second francophone à prêcher la retraite au Vatican après le père Carré.
Alors, avant de nous quitter, vous avez bien voulu nous apporter quelques ouvrages qui viennent de paraître dans votre maison d'édition. Et je vais commencer par un très beau livre, même si c'est un album. Enfin, vous avez trois ouvrages réunis en un, avec une actualité, puisqu'en ce moment, au Musée d'Art Moderne de Paris, il y a cette exposition autour de Georges Rouault. Georges Rouault, qui est un artiste qui était proche des Dominicains, oui. Et qui a d'ailleurs contribué, je crois, à la chapelle de Vence.
Alors non, pas lui directement, oui. Mais il fait partie de toute cette mouvance. Voilà. Et en revanche, actuellement, il y a une exposition sur Rouault et Matisse.
Voilà.
Parce que ils ont travaillé à certains moments de manière proche et presque parallèle.
Alors, ça s'appelle « Cirque de l'étoile filante, passion et miséréré » de Georges Rouault, avec, je crois, des textes inédits de Suarez.
Oui. Alors, il y a, premièrement, le miséréré, c'était des bois gravés. Je vous ai parlé de la notion d'œuvre et notre secteur de l'art. Vous avez là quelque chose de typique de notre activité. Et donc, Rouault, à l'époque où il travaillait dans la proximité de Vollard, qui était son maître, oui. A réalisé des bois gravés, dont un seul a été publié sous forme de livre, Le Miséréré. En réalité, il y avait deux autres séries de bois gravés faites dans cette époque Vollard, l'un qui s'appelait Passion et un troisième qui s'appelait Cirque. Passion, Rouault avait commandé un texte à Suarez sur la Passion. Vous savez, Suarez n'était pas croyant, mais il a fait un très beau texte sur la Passion. Et Vollard a demandé à Rouault de ne pas le publier. De sorte que ces deux ensembles de Passion et de Cirque sont restés inédits. Alors pourquoi Vollard ne voulait pas qu'on publie le texte de Suarez sur la Passion? Tout simplement parce que cela a été réalisé tout de suite après la guerre et qu'à un moment, Suarez parle ironiquement des GI. Et Vollard craignait que ce ne soit indélicat d'un foulet de la libération. C'est uniquement cela, anecdotiquement. Alors maintenant, avec le recul, nous pouvons tout à fait et découvrir le texte de Suarez, qui est très beau, et les bois gravés. Quant au texte de Cirouault lui-même, qu'il a rédigé, il n'a pas publié non plus de son vivant. Dans ce coffret, nous avons cette trilogie enfin restituée. Alors, il y aura une suite. Nous allons publier prochainement Les bois gravés, Café Rouault, des fleurs du mal.
Alors, c'est nouveau déjà cette très belle découverte en attendant cette publication dont vous nous parlez. Alors, vous êtes venu aussi avec le Journal de France d'Angelo Giuseppe Roncalli, à l'époque où il était cardinal, c'est ça?
Alors, il était nonce apostolique à Paris.
Il était nonce apostolique à Paris, pardon.
Oui, il n'était pas encore cardinal, il le serait après. Oui. Et il est arrivé après la guerre dans une situation très délicate, puisque on était dans la période d'épuration, et qu'il a eu à gérer toutes les tensions entre les politiques qui souhaitaient une épuration dans l'Église et des ecclésiastiques qui s'étaient bollement engagés pendant la guerre. Alors, il tenait des agendas, enfin des journaux, si je veux dire, au jour le jour, de tout ce qu'il faisait et tout. Alors, c'est une mine pour les historiens.
Oui, c'est ensuite un document exceptionnel, d'autant que vous le présentez, je crois.
Le futur pape, c'est le premier pape dont on ait un journal avant qu'il ne soit pape. Et grâce au travail d'historien d'Étienne Fouilloux, on a pu rendre lisible un certain nombre de pages de ces journaux, parce que c'est parfois rédigé de manière elliptique, donc il faut savoir exactement à quoi il fait allusion pour deviner. Et donc Étienne Fouilloux a noté tout cela.
Il y a un appareil critique considérable.
Oui, et donc c'est un instrument très précieux pour les historiens, en même temps que le témoignage d'une grande figure.
Et c'est le texte intégral.
Alors, le Journal de France, c'est le premier tome du Journal de France, le deuxième va paraître dans les mois qui viennent, et il y a comme ça des journaux aussi sur toutes les autres périodes. Nous espérons avoir le courage et les moyens de procéder aux traductions de l'ensemble, mais le Journal de France paraîtra en son intégralité.
Et puis alors, troisième ouvrage avec lequel vous êtes venu dans ce studio de Canal Académie, Les Pensées spirituelles de Benoît XVI, dont on peut peut-être rappeler à nos auditeurs que quand il était le cardinal Ratzinger, il était membre, il est d'ailleurs toujours membre de l'Institut.
Oui, alors vous savez, le chef a parfois l'impression d'être une annexe de l'Académie, parce que le père Carré a été membre du boulevard Latour-Maubourg de 1937. Jusqu'à sa mort en 2004. Il avait été offert comme cadeau pour l'installation aux éditions du Cerf, boulevard Latour-Maubourg. Et pour ses 60 ans de sacerdoce, j'étais son prieur à l'époque, en accord avec Maurice Druon, qui était secrétaire perpétuel de l'Académie française, nous avions invité l'Académie à venir avec le couvent célébrer les 60 ans du père Danijou. Je me souviens encore que Jacqueline de Romilly était arrivée avec une rose. Et à cette occasion-là, j'avais fait Maurice Druon, qu'on voyait régulièrement, parce qu'il y avait aussi les cercles de la résistance, réunissait au boulevard Latour-Maubourg jusqu'à sa mort. Et j'avais nommé Maurice Druon membre d'honneur du couvent Saint-Dominique, et il revendiquait haut et fort ce titre. Et donc, oui, le cardinal Ratzinger a aussi été membre de l'Académie des sciences morales et politiques, comme le cardinal de Lubac. Le cardinal Danielou, lui, était le prédécesseur du père Carré à l'Académie. Et donc, le CERF a beaucoup collaboré avec Benoît XVI, car du temps qu'il était cardinal Ratzinger, il était responsable de la Congrégation pour la doctrine de la foi, c'est-à-dire l'organisme de régulation à l'intérieur de l'Église. Et les relations étaient très tendues entre mon prédécesseur et son prédécesseur. Et je dois dire que nous avons travaillé de manière très heureuse pendant plus de 20 ans où il était à ce poste avec les éditions du CERF. Au moment où on a apaisé les choses, au début des années 80, par rapport à son prédécesseur qui voulait la démission du père Foulé, j'avais fait un mémorandum pour dire quelles étaient les méthodes de travail que nous mettions en œuvre au CERF, tout ça. Et il avait dit à mes supérieurs qu'il prenait acte du fait qu'il y avait une méthode de travail très cohérente et tout. Il avait dit... Il allait quand même pas nous donner un blanc-seing. Est-ce que c'est la bonne méthode pour une maison d'édition tenue par des religieux? Oh, la congrégation pour les religieux fera un colloque un jour, ils s'occuperont de cela. Et il avait ajouté à nos supérieurs, quant à moi, je ne mordrai pas le cerf. C'est une expression, je sais pas si c'est dans le dictionnaire de l'Académie, mais c'était son expression. Je ne mordrai pas le cerf parce que j'ai beaucoup d'estime pour leur travail et leur rayonnement. Et ça ne s'est pas démenti pendant 25 ans. Et donc, nous venons de sortir un recueil de pensées spirituelles qui a été fait sous sa responsabilité, qui est impressionnant à lire. Et vous êtes le premier à qui je donne l'information dans les médias. Il a invité les éditions du CERF à une audience privée pour le 500e volume des sources chrétiennes, pour notre plus grande joie.
Merci de cette information et merci d'être venu nous présenter votre maison d'édition, le CERF, que vous avez enrichi d'anecdotes. Merci beaucoup Nicolas Jansède.
Merci à vous et merci à vos auditeurs.